et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Il y a des passions qui dévorent, des passions qui font vivre. Il y a des mouvements du monde qui inspirent, des cultures qui fascinent. Partout, des artistes ou des citoyens regardent ailleurs pour se construire. C'est ce que l'on appelle aussi le métissage. Dans ce monde, il y a des sources, des racines qui nous enlacent, parfois malgré nous. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes constitués pour vivre ensemble et échanger. Cela ne plaît pas à tout le monde, mais c'est la nature humaine. Envers et contre tout, nous sommes faits pour la rencontre. Et cela génère sans doute la beauté de la vie. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La chanteuse Gilles Kaplan publie un récit très intime qui raconte ses passions et son parcours. Elle est sur notre plateau. Le duo métis Jojoa et Lieutenant Nicholson jouera son nouveau titre en avant-première dans notre studio. Un éloge de la lenteur dans ce monde actuellement très agité. Nous serons aussi avec l'écrivain suisse Adrien Gygax pour un roman qui vous fera voyager entre le Jura et la Polynésie. Et puis il sera question d'une passion dévorante avec un garçon qui a failli incarner une star de la littérature et du cinéma. Reportage avec David Fuenquinos dans une boutique librairie étonnante consacrée à Harry Potter. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine, ils interviendront tout au long de cette émission. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France dans la librairie Goulard à Aix-en-Provence, tout va bien ?
Tout va bien.
Très bien. En Belgique, c'est Nathalie Clairin de la librairie de la Mazerine à la Hulpe qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Grand soleil à Bruxelles en ce moment. Hein.
Ah, comme toujours.
Grand soleil pluvieux.
Comme toujours.
Bonjour Mike Viennot.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez vous le Canada, vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie Monet. Le printemps arrive pas à pas, on espère en tout cas.
Oui, tranquillement.
Tranquillement. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse, dans la librairie Atmosphère à Genève. Il y a toujours une très bonne atmosphère d'ailleurs chez vous. Vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission. Anecdote vécue, une histoire vraie quoi.
Ben oui, toujours.
Allez-y.
Alors, vous savez, j'ai de la peine à reconnaître les gens connus. Il y a eu l'épisode Carlo Trichet. Et là, il s'agit simplement d'une personne qu'on a beaucoup vue en photo et qui est dans les hautes sphères de la politique genevoise.
Ouais.
Alors, elle est venue à la librairie et elle a pris des livres pour sa fille qui a entre 2 et 3 ans. Et comme c'était en décembre, juste avant la Saint-Nicolas, elle me prend en album de Saint-Nicolas. Et elle me dit, ça va pour ma petite fille, elle a peur, ça va pas lui faire peur. Puis je dis, oh non, non, vous prenez ce livre, c'est très bien. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que c'était un ogre qui mangeait des enfants.
Ah.
J'étais mortifiée. Eh ben, figurez-vous qu'elle est revenue et qu'elle m'a dit, non, non, vous me conseillez toujours bien.
Elle n'a pas lu, quoi.
Bah, elle a vu et puis elle m'a dit, je vais attendre.
Non, c'est bien, vous faites des amis avec vos clients, vous. Hein.
Oui.
Hein, vous allez avoir une superbe réputation, c'est génial.
Oui.
Bon, la librairie s'appelle la librairie Atmosphère à Genève. Hein. Si vous voulez y aller, c'est l'occasion. Merci pour cette anecdote, Claire. Et voici Gilles Kaplan.
Quand je pense à tout.
Et bonjour Gilles Kaplan.
Bonjour Emmanuel.
Sur cette musique avec tous ces titres, succès des années 90, avec Liza Minnelli aussi sur votre premier album. J'adore cette chanson, je vous l'avoue là.
Je me fais un peu plaisir. Merci beaucoup. J'étais très surprise en l'entendant dans le. dans le petit melting pot que vous avez fait.
Oui, parce que ce n'est pas la plus connue, celle-là.
Pas du tout, ouais. C'est une chanson d'album que les gens qui aimaient mon premier album appréciaient particulièrement, ouais. Mais pas le grand public.
Bon, entre Nathalie Wood et Liza Minnelli, vous aviez une passion pour les grandes artistes américaines, comme une envie de filiation peut-être, Gilles ?
Mais j'ai souvent parlé Nathalie Wood, Liza Minnelli, j'ai souvent fait des chansons qui portent des titres de films, La rivière sans retour.
Oui, oui.
J'aimais bien mettre glisser comme ça des titres, le cinéma, où ils étaient très constituants pour moi.
Ouais, dans votre récit, Le Feu aux Joues, vous racontez votre parcours pour devenir actrice au départ, puis votre opportunité à devenir chanteuse. Ça s'est fait un peu par hasard, ça? Par défaut?
Oui, c'est-à-dire que c'est un récit, bien sûr, mais qui raconte comment, autour de la musique, comment une personne peut devenir quelque chose ou quelqu'un qui lui ressemble à peu près. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est vraiment une histoire universelle. On s'extrait d'une vie qui vous ennuie et grâce à la musique, on se répare, quoi.
Ouais. Vous racontez votre vie dans ce livre, hein, Gilles Kaplan, votre jeunesse et votre enfance aussi, encombrée, dites-vous, par les petites maladies récurrentes. Vous êtes tout le temps malade.
Ah oui, ouais. Les maladies m'adorent.
C'est ça. Votre petite taille aussi, ça vous préoccupe et vous pensez beaucoup à votre avenir dès votre plus jeune âge, en fait.
Je n'aimais pas tellement être une enfant et je voulais m'enfuir de l'enfance, d'être prisonnière déjà d'un petit corps qui était souvent malade, d'une petite maison, d'un petit arrondissement.
Toute mignonne quand même.
Oui, c'est pas le problème, mais à 10 ans et 11 ans, imaginez-vous qu'on ne se pose pas la question si on est mignonne ou pas.
Hein, ouais. Alors vous voulez être quelqu'un de très important à l'époque, vous voulez être Blondie. Alors, vous ne cessez de regarder la pochette du disque.
Mm-hmm.
C'est comme ça, c'est comme elle que vous voulez être.
Disons qu'elle incarnait quelque chose qui me fascinait, une liberté. Voilà. Je ne connaissais pas du tout son histoire, des Biarri, je ne savais même pas que c'était son nom.
Oui.
Pour moi, Blondie, c'était elle, c'était Blondie, elle était blonde, voilà. et je ne savais pas qu'elle incarnait aussi le mouvement rock, punk de New York. Je ne savais pas du tout ça, mais quelque chose m'appelait irrémédiablement. Et j'adorais, il y avait une pochette, elle faisait un peu...
Un peu la moue, quoi.
Ouais, peu la moue avec son micro sur ses lèvres entrouvertes. C'est quelque chose de très sexuel, de très sexy, de très sale en même temps. Oui. J'adorais, quoi.
Bon, il y a beaucoup de livres, plus que de déco, dans votre foyer, contrairement au foyer de certaines de vos copines. On vivait modestement chez vous, mais dans la culture. Et alors, vous apprenez des choses. Vous nous apprenez des choses, Gilles Kaplan, parce qu'au passage, dans votre livre, il y a l'histoire de certaines chansons ou de certains artistes, comme l'obsession de Brian Wilson des Beach Boys a dépassé Sgt Pepper's des Beatles. Et un jour, Brian Wilson demande à Paul McCartney, vous racontez cette histoire, d'intervenir sur son album en préparation qui s'appelle Smile.
Exactement. Alors c'est une anecdote. L'histoire de Paul McCartney est moins connue, mais l'histoire de Sgt Pepper, qu'il est très très jaloux de Sgt Pepper, c'est assez connu en fait, il fallait le dire quand même. Donc il rentre dans une espèce de compétition avec Sgt Pepper, il a refait des chansons qui sont mais des chefs-d'œuvre quoi, qui sont sublimes, il casse tout, il défait tout, il devient dingue, il tombe dans la drogue, son groupe le vire, il prend 100 kilos, il est dépressif, bref. Et pendant qu'il enregistrait ce disque, lui qui adorait Paul McCartney, il s'adorait, hein. C'était un amour-haine, mais une compétition artistique, quoi. Et il lui demande de manger du céleri.
C'est ça, il lui dit, est-ce que tu peux intervenir sur l'un des titres? Alors Paul McCartney est honoré, parce qu'il faut savoir que les Beatles étaient fans des Beach Boys.
Complètement.
Et alors du coup, vous allez entendre un monument de la musique, c'est sur l'album Smile, ça s'appelle Vegetables, et vous allez entendre du céleri croqué, un légume croqué, c'est Paul McCartney qui croque, écoutez.
I tried to kick the ball, but my tiny flew right up. I'm red as a bee, 'cause
Voilà. C'est Paul McCartney qui croque du céleri.
Oui.
C'est incroyable.
Et ça, évidemment, je savais pas et j'adorais cet album quand j'étais petite. En fait, c'était pas cet album puisqu'il est pas sorti en fait, puisque Brian Wilson est devenu dingue. mais c'était une double compilation, il y avait ce morceau.
Bon, vous découvrez toute cette musique, vous découvrez ensuite Aragon grâce au disque de Jean Ferrat, vous découvrez l'Angleterre avec des voyages linguistiques et un ovni vous tombe dessus, Gilles Kaplan, c'est le Space Oddity de David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Toutes ces musiques vous éduquent, on peut dire ça en fait.
Elle m'éduque puis elle me choque.
Ouais.
Voilà, elle me rentre dedans, elle me rentre vraiment sous la peau, c'est des hautes émotions, voilà. Littérature, cinéma, musique ont été mes plus hautes émotions.
Tout est là. Bon, sur cette musique de David Bowie qu'on a du mal à couper, on va entendre nos libraires. Ah ouais. Vous savez qu'il y a des libraires qui ont lu votre livre, Gilles Kaplan. Le Canada, la France et la Belgique, on commence par qui ?
Par le Canada.
Le Canada, sur la voix de David Bowie, Mike Viennot.
Ah, connaître la chanteuse, wow, mais connaître la femme avant la chanteuse, la femme autour de la chanteuse, c'est un privilège. J'ai l'impression d'avoir des parcelles de vous, des moments de dentelle que j'ai même pas volés, que vous m'avez offert. Vous révélez vos joues en feu, sans les apaiser, comme un journal intime que vous ouvrez très sagement, tout en amitié, tout en amour. Je suis charmé. Et si vous écrivez dans votre livre, j'ai le sourire qui traîne par terre, eh bien moi, j'ai le bonheur qui colle au plafond.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
Elle est toute rouge.
Oui, le feu aux joues.
Le feu aux joues. La France, Mathieu Colombe.
Oui, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Dès le début, l'écriture à la fois franche et légère est accrocheuse. Et en fait, dans les premières pages, on a même carrément l'impression de lire un roman. Mais surtout, ce qui m'a conquis, c'est cet amour, cet abandon à la musique tellement contagieux. D'ailleurs, je conseillerais à la lecture de ce livre soit de suivre son envie, soit d'écouter les très bonnes suggestions de Gilles Kaplan, soit de choisir son ambiance musicale, parce que la musique, après tout, c'est vraiment le cœur du propos.
Voilà, la musique, elle en pleure, Gilles Kaplan.
Mais non, je suis toute rouge.
On a cette expérience en direct avec David Bowie derrière les libraires, c'est sublime. On va terminer avec la Belgique, on va voir si elle est d'accord. Oui, c'est Nathalie Clairin à Bruxelles. Remettez le casque. Nathalie.
Oui, Emmanuel et Gilles. Oui, super, super, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le livre n'est quand même pas pour tout le monde, puisqu'il faut avoir de l'intérêt pour le monde musical des années 70-80, il ne faut pas me le dire.
Oui.
Mais moi, ça m'a plu. Alors, j'ai passé quand même presque autant de temps sur Spotify et Wikipédia à me balader, à réécouter la musique de tous ces artistes ou à replonger dans leur vie. Mais vraiment, c'était un beau voyage au pays de nostalgie.
Voilà, Spotify ou Deezer ou Apple Music, hein. Il y a d'autres marques bien sûr qu'il faut citer.
Et à la fin du livre d'ailleurs, j'ai fait la petite playlist, il faut scanner une espèce de flashcode
et on peut écouter
la playlist. Oui. Et chaque chanson que je cite dans le livre, même la plus obscure, est dans la playlist.
C'est ça, voilà, c'est ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui avec vous. Il y a des histoires émouvantes avec le père de J.P. Nataf, des Innocents, qui, dites-vous, vous couvent comme des poussins.
Oui.
C'est très joli. Et puis, votre premier album est signé chez CBS, maison de disques cultes, celle de Dylan, de Leonard Cohen. Et l'album sort en même temps que celui de Michael Jackson, Bad, à l'époque.
Oui.
Et paradoxalement, Gilles Kaplan, ça vous aide un peu.
Mais oui, c'était une espèce de monnaie d'échange en fait. C'est un passage où il y a tout le portrait de cet attaché de presse qui s'appelle Robert Toutant.
Ouais.
Il s'occupe de la promo de
Jackson,
de Bad.
Ouais.
Tout le monde évidemment, parce qu'à l'époque c'est pas comme maintenant, hein. Pour avoir le sponsoring d'un clip, il faut rentrer dans les bonnes grâces de l'attaché de presse. Et moi c'est, ah tu veux l'exclusivité du clip ? Eh ben t'as qu'à me prendre Gilles Kaplan au passage.
Donc, et du coup vous faites tous les plateaux.
Tout.
C'est comme ça que vous devenez une star en fait en France.
Star, je sais pas, mais en tout cas je passe beaucoup à la télé, à la radio,
partout,
à la télé, beaucoup, parce que voilà, tu veux Michael Jackson, bah tu me prends Gilles Kaplan avec alors quoi.
Alors vous faites tous les plateaux, vous participez à tous les événements, même des soirées étudiantes où on vous asperge de vodka.
Alors ça c'est pas lui, ça c'est autre chose. Voilà,
on vous réclame partout.
Oui.
Vous vous souvenez aussi d'Ostend en Belgique où s'est exilé Marvin Gaye pour soigner ses addictions. Il y a tout un passage sur Ostend très joli. Et il y a une autre anecdote à Tahiti. Vous êtes invité pour une série de concerts et ça ne se passe pas très bien. On parlera de Tahiti avec Adrien Gygax dans un instant. Mais vous partez à Tahiti un peu à contre-cœur, ça fait un peu caprice de star, Gilles. Là, vous m'avez un peu énervé, franchement.
Non, mais si.
Non, pas, vous pouvez pas dire ça.
Si.
Non, pas du tout. Non, mais c'est, en fait, c'était, vous dites ça, mais vraiment, mais out of the blue, quoi, quand même.
Pas d'anglais, je comprends pas l'anglais.
Sorti de nulle part, quoi. Oui. Non, Tahiti, c'est 24 heures d'avion.
Oui, oui.
Je pars avec ma mère, mon fils. Bref, c'est pas, on a, tout le monde n'a pas envie d'aller se cogner 24 heures d'avion pour aller faire plouf-plouf, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est comme
ouais.
ça. C'est, et c'est bien, je trouve, quelque part, en même temps.
C'est vrai, ouais.
Franchement.
Pourquoi pas?
Pourquoi
mais en tout cas, ça se passe mal avec un musicien.
Bah ça, voilà.
Il est insupportable, j'avoue. Bah, franchement, comment vous avez supporté? Vous le giflez en plein concert.
Dites, oh là 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 là, le spoil! Mais c'est pas mais possible!
C'est pas non plus l'essence du livre, mais...
Non, mais bon... En fait, oui, il se trouve que cette personne avait des problèmes d'addiction et n'avait pas bien travaillé. Et je le sentais bien, mais c'était trop tard. Je me suis un peu laissée embourbée. Et...
Bon, la suite, c'est dans le livre.
Voilà.
Il y a aussi un voyage aux États-Unis. Vous allez découvrir ça. Tout le récit de Gilles Kaplan raconte ces histoires-là. Il y en a plein, hein, évidemment. On n'a pas tout dévoilé, rassurez-vous. Merci, Gilles Kaplan. Vous restez avec nous, bien sûr. Et, hein, il y a Lieutenant Nicholson et Jojoa tout à l'heure dans notre studio avec un mini-concert, on va dire. Le feu aux joues est paru chez Robert Laffont, à suivre dans la librairie francophone Un voyage entre le Jura et la Polynésie, donc, avec le Suisse Adrien Gygax. Avant cela, voici le tout nouveau titre de M.
Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils, la vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille, tous ces sons de merveilles et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil avec mes grandes oreilles.
C'était M avec grandes oreilles.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Adrien Gygax, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous, Adrien ?
Très bien, merci.
Vous êtes un auteur suisse, Départ de feu, paru chez Plon, et votre troisième roman, on vous a déjà entendu ici, il y a une curiosité en ouverture de ce livre, cette annonce de Nietzsche en 1882 qui évoque la mort de Dieu et la fin des valeurs chrétiennes dans deux siècles, soit en 2082. C'est prévu.
Oui, exactement.
Tout part de là.
Oui, c'est que dans les fragments posthumes de Nietzsche, il annonce deux siècles de nihilisme, et puis après... La sortie du tunnel.
Ouais.
Et puis j'ai fait le calcul, si l'espérance de vie est stable, bah, je risque de voir ce nouveau monde.
Vous serez vieux quand même. Hein.
Ouais, je serai assez vieux.
Plus de 90 ans, un truc comme ça.
Exactement.
Bon, vous espérez en tout cas.
On ne sait jamais.
Il y a votre personnage César qui a 30 ans. Il est community manager, comme on dit en anglais. Il gère donc les réseaux sociaux pour une grande marque de cigarettes à Lausanne. Il est bien dans sa ville, mais un jour son appartement brûle. Alors il perd tout et il réalise que le monde est superficiel autour de lui.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il se met en quête parce que sa voisine décède dans l'incendie, mais il a aucun souvenir de cette voisine. Et il se rend compte que c'est quand même un peu, il faut être un peu aliéné pour avoir aucune idée de la personne qui vivait juste de l'autre côté d'un mur, en fait.
Alors, du coup, il se dit, je vais me rapprocher de la nature. En tout cas, on l'incite à faire ça pour une retraite, détox, comme on dit. Et quoi de plus facile, finalement, pour un Suisse? Il suffit d'aller dans un village du Jura et c'est plié. Sauf que ce n'est pas si facile que ça. C'est dur de se désintoxiquer du monde moderne.
Oui, exactement. J'ai voulu faire un peu le portrait de ma génération, que je constate un peu paumée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui, tout à coup, pètent des câbles et puis partent garder les lamas au fin fond de la Bolivie ou autre. Et puis, je vois aussi qu'on n'est pas forcément préparé pour cette quête qu'on mène. Donc, j'ai voulu que César soit vraiment le cliché de cette impréparation. Donc, de manière un peu naïve, il va traire les vaches et il part dans la nature en se disant, c'est ça l'essentiel, c'est ça l'authenticité, sans trop savoir ce que c'est vraiment. Et puis, bon, il l'apprend un peu the hard way, comme on dit.
Ah non, pas d'anglais,
s'il vous plaît. Oui, moi, je fais exprès, vu que vous avez engueulé Gilles avant.
Je pas engueulé Gilles. Je l'ai reprise. C'est pas pareil. Bon, son obsession de ce community manager, donc, c'est de comprendre et de développer son sens de l'observation. Et ça fonctionne. Peu à peu, on s'adapte, Adrien Gygax. Dans la nature, quand on est tout seul, le corps s'adapte.
Alors, ça vient pas tout de suite. C'est un long travail, mais on peut, au contact de la nature, encore faudrait-il définir ce que c'est exactement, mais on peut redécouvrir certains instincts. Oui. Je parle de Paul Valéry à un moment donné dans le bouquin qui disait déjà en 34 que nos instincts s'émoussent et qu'on ne ressent plus rien. Donc il faut toujours plus de stimulation pour ressentir. Donc je pense qu'il faut plus de présence auprès de la nature pour la ressentir. Mais oui, ça peut se faire.
Il dit, il me semble bien que je deviens de plus en plus sauvage, que mon cerveau procède à quelques ajustements.
Oui, il y a plusieurs ajustements qui se font pour lui. Le premier étant de réaliser qu'il n'est pas préparé pour ce contact avec la nature, étant les animaux, la forêt, etc. Il n'arrive pas à s'orienter, il y a plein de choses qui...
C'est dur surtout.
Oui, c'est dur.
C'est physique.
C'est ça, c'est que souvent on imagine que c'est chouette d'aller travailler dans la nature, couper des arbres. Et puis en fait, quand on le fait vraiment, au bout d'une journée, c'est difficile.
Avec les vaches aussi.
Oui, moi-même j'ai fait l'expérience, je suis allé faire un stage à la ferme pour ça.
Ah oui, vous avez été garçon vacher.
Oui, exactement. Ouais. Et à la pause de midi, on m'a demandé comment je me sentais. J'ai dit que j'avais l'impression qu'il était 23h30 déjà. Donc non, c'est... Ouais. Je l'ai vécu, quoi, c'est pas évident.
Et vous avez travaillé jusqu'à quelle heure?
13h30.
Ah, vous avez arrêté après?
Non, ouais, je suis allé à la sieste, puis je me suis pas relevé.
Quelle honte. Bon, César va donc partir à Tahiti. On vous raconte ce voyage après les commentaires de nos libraires, Adrien Gygax. Vous les connaissez. On va commencer par le Canada, ça vous va?
Parfait.
Avec Mike Vienno.
J'ai pris un court moment pour me familiariser avec ce personnage que j'ai trouvé plutôt désagréable au début, mais ma patience a parfois ses vertus et je suis devenu un ami de ce César. Il y a de la critique générationnelle dans ce roman, il y a de la remise en question sociale, il y a même de l'audace littéraire. Mm-hmm. Et puis comment ne pas rire un peu, à défaut de rire avec lui, de ce mésadapté, oui, inadapté en québécois, qui est César, qui cherche une certaine détox, mais qui s'égare dans ses propres illusions.
Bien, je ris aussi parce qu'il y a Lieutenant Nicholson et Jojoa qui s'installent et qui font des gestes au ralenti. Pour pas faire de bruit, vous savez, tout est libre. Hein. Vous allez les entendre dans un instant. Restez à l'écoute, c'est génial. Le titre que vous allez entendre est génial. Allez, la Suisse a plus aimé votre livre, je crois, Adrien Gygax. Rassurez-vous, non ou pas? Je sais pas, Claire.
Alors, j'étais d'abord un petit peu mitigée parce qu'actuellement, j'ai plutôt envie de lire des livres qui me font fuir la réalité, l'actualité. Mais alors, j'ai particulièrement apprécié le passage quand César s'essaye au métier d'agriculteur. L'humour est au rendez-vous et il y a des passages vraiment très caustiques.
Oui, c'est vrai.
Après, j'ai été perturbée aussi par votre style. Les phrases sont très courtes et je me suis demandé si votre roman avait été plus court, s'il n'aurait pas été encore plus percutant et cinglant.
Bon, écoutez, Nathalie Clairin, vous n'êtes pas d'accord en Belgique?
Ah, moi, j'ai trouvé totalement que c'était vraiment un beau roman sur la quête du sens. Un de ces livres qu'on ne lâche pas parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va arriver au personnage. Et j'ai trouvé l'écriture très agréable, vraiment dynamique, précise. Et je me disais que je voulais le recommander aussi à des jeunes parce que c'est quand même un roman d'adolescence. Il est profond, il est plein d'humour à la fois. Et il a le chic pour toucher au sens ultime des choses, mais il nous remet quand même bien les pieds sur terre aussi. Pour moi, c'est une réussite.
Oui, c'est vrai que c'est un livre, un roman pour tous, tous les publics. Voilà, Adrien Gygax.
Oui, je pense que c'est pour tout le monde. Et pour l'instant, les retours que j'ai sont assez clivants. En effet, il y a des gens qui n'ont pas envie de partir dans cette quête avec lui. Donc ça ne me surprend pas, ça me fait plaisir d'entendre ça.
Bon, Adrien, votre personnage débarque donc à Tahiti. Vous y êtes allé, je suppose, hein, car vous décrivez la chaleur et les effluves avec une grande précision.
Oui, je suis allé à Tahiti, alors pas exactement dans les lieux qui sont décrits dans le livre, mais j'y ai passé du temps et puis c'est précisément ce que je voulais restituer, c'est les odeurs, cette ambiance sensorielle.
Ouais, quel souvenir vous gardez de votre premier contact avec la Polynésie? Essayez de nous décrire là, tiens, comme si
j'ai giflé personne, moi, à Tahiti, contrairement à Gilles. Donc,
oui, vous avez giflé personne.
J'ai plutôt un souvenir de quiétude et de bien-être.
Oui.
Après, j'ai aussi un de mes souvenirs qui est dans le livre d'ailleurs, c'est qu'il y a un McDonald's à Papeete quand on arrive, avec le même menu que chez nous. Et puis le poisson est garanti du Pacifique, comme il l'est en Suisse. Mais bon, là-bas, c'est un peu bizarre de lire que le poisson est garanti du Pacifique à Tahiti.
Oui, c'est ça. C'est ça votre souvenir?
Oui, c'est ça, et d'autres choses. Mais c'est surtout les couleurs, les odeurs, ouais, qui m'ont marqué.
Alors, il part à Moorea aussi. Il constate que les âmes se relâchent. Et plus tard, il vivra nu sur une île, sans tout vouloir raconter. On lâche prise, en fait, en se dénudant. C'est ce qu'il fait, en fait. Ça commence par là, le contact avec la nature.
Oui, c'est-à-dire que il essaye d'aller dans la nature la plus extrême, la plus absolue qui soit. C'est pour ça qu'il va même jusqu'à se dénuder sur une île où il y a que lui et la nature, pour essayer, voilà, d'être dans cette connexion extrême. Mais bon, voilà, sans trop en dire, c'est pas forcément une grande réussite non plus d'être tout nu sur une île pendant 10 jours.
Bah, ça va pour lui, non?
Oui, ça va, mais disons que c'est pas l'ataraxie non plus, quoi.
Non, c'est-à-dire qu'il se cherche. Ouais, il arrive pas à trouver, en fait, son bonheur. On va pas tout raconter, mais c'est vrai qu'il découvre aussi la culture tahitienne. Il y a aussi la culture avec les touristes mélangés. Il y a cette notion, hein, dont vous parlez, Adrien Gygax, les touristes qui ont économisé une vie entière pour s'offrir ces quelques jours. Et la population locale est très sévère avec le tourisme de masse qui a fini par tuer le paradis. Vous dites dans ce livre que Tahiti n'est plus un paradis.
Oui, je le dis et je suis pas le premier. Je cite Ségalène dans le livre qui est déjà allé là-bas et qui a constaté ça, au fait que l'authenticité de ce lieu, la culture millénaire marquisienne a déjà été détruite, ça fait un siècle. Et puis quand on y va et qu'on a envie d'être un peu dépaysé, pas seulement par la couleur de l'eau et puis l'odeur de monoï de la crème solaire, on est un peu déçu parce que finalement c'est presque l'Occident là-bas.
Il y a un vieux marquisien qui lui dira que on a fini par tout détruire en fait.
Exactement, et qu'il faut que si César veut changer le monde, il aille le faire chez lui.
Voilà, ouais. César découvre aussi des animaux exogènes.
C'est vrai, il y a sur les îles autour des Marquises des moutons qui sont, ils sont pas nés sur l'île, enfin ils viennent pas de là, on les
ont importés. Ouais.
Voilà. Et puis ils déséquilibrent la biodiversité en mangeant tout ce qui se trouve sur l'île, et donc il y a des gens qui vont les chasser.
D'accord.
C'est ce qui arrive au narrateur qui va chasser le mouton.
Oui. C'est ça. César va s'éveiller avec ses rencontres et ses voyages. C'est aussi ça, hein, le principe de ce roman. Il dira même « un éveil est possible, l'humain n'est pas condamné à la bêtise et à l'ignorance ».
Voilà, ce livre, je l'ai vu un peu comme un... C'est pour ça que ça s'appelle « Départ de feu », c'est le départ de quelque chose. Je ne sais pas encore quelle est la destination finale, mais c'est de dire qu'on peut se mettre en mouvement. On peut s'allumer un peu, et puis on n'est pas condamné à suivre ce rythme un peu aliénant des fois qu'on vit, par exemple quand on est community manager pour une marque de cigarettes sans fumée.
Ouais, terrible. Oui, terrible. Bon, merci beaucoup Adrien Gygax.
Avec plaisir,
merci. Vous allez rester avec nous, avec Lieutenant Nicholson et Jojoa, qui sont installés à leur micro. Départ de feu est donc paru aux éditions Plomb. Voici un duo qui croise donc les cultures musicales afro-caribéennes et la poésie funky sur des rythmes électro. Jojoa, originaire du Cameroun, inspiré par Francis Bébé, membre de sa famille, et Lieutenant Nicholson, qui voulait être pilote d'avion, surnommé ainsi par son père, un certain Laurent Voulzy. Ils se sont rencontrés un jour, grâce au basket. Depuis, 2 albums sont sortis. Vous les avez déjà entendus sur notre antenne. Ils reviennent avec un tout nouveau titre qu'ils jouent pour vous en primeur dans notre studio. Un duo solaire qui fait l'éloge de la lenteur. Voici Jojoa et Lieutenant Nicholson dans la librairie francophone. Vous êtes prêts?
Nous, on est prêts.
Eh bien, alors allez-y. C'est à vous.
Tout va trop vite. Ralentissons.
si vite. Allez, allez, allez.
Allez, ça va aller.
Allô, tempo, piano.
Va piano, va sano.
Titre de Jojoa et Lieutenant Nicholson, pas si vite, dans le studio de la librairie francophone, magnifique. On va citer le nom de votre bassiste qui vous a accompagné.
Grégoire Mahé.
Grégoire Mahé, alias... et on remercie...
Allez-y. Alias Papa Tonk.
D'accord. On remercie aussi à la technique Nicolas Delmas qui s'est occupé du son. C'est magnifique. Installez-vous le temps d'une petite virgule, d'un jingle, comme on dit.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Pas si vite, c'est un titre qui fait donc l'éloge de la lenteur. L'image qui illustre ce titre est une tortue verte à la carapace couleur camouflage. Pourquoi faut-il ralentir un peu, Jojoa ?
Prendre le temps, c'est très important. Quoi qu'il arrive.
C'est ce que vous faites, vous, dans la vie ?
Pas tout le temps, mais c'est important.
Nicolas ?
Non, mais c'est vrai que c'est un thème qui nous a parlé tout de suite, parce que moi, en plus, qui suis toujours, j'aime bien quand ça arrive vite et tout. Il dit que... Mais en fait, c'est un menteur. Il prend son temps. Il prend beaucoup de temps, lui. Il prend beaucoup de temps. Et du coup, et c'est vrai, il m'entraîne dans ce truc-là. Et il a raison. Et c'est vrai qu'il vaut mieux prendre son temps pour faire bien les choses que de se précipiter à faire un truc qui est...
Ouais.
Voilà, bon. C'est vrai qu'il y a dans le contexte actuel.
Vous êtes toujours d'accord entre vous? Il paraît que vous engueulez autant que vous vous aimez tous les deux.
Mais je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est la vérité.
Oui, c'est ça.
On ne fait que ce. Mais
quand
c'est
on
ça,
aime,
l'amour,
on s'engueule.
C'est ça, l'amour.
Ben oui, bien sûr.
C'est ouais. Ça.
On connaît tous ça. Cette musique chaloupée, chaleureuse, vous la portez depuis 2015 avec le premier album Teki. Vous interrogez les origines et le vivre ensemble par des jeux de mots et des idées simples. C'est facile de vivre ensemble avec des cultures différentes. Il faut juste les associer.
C'est une richesse en tout cas. C'est pas forcément facile, mais c'est une quête. C'est un chemin intéressant, enrichissant.
Oui, ma culture est totalement métissée, donc évidemment pour moi on peut vivre ensemble. Et puis surtout voilà, c'est apprendre comment vit l'autre, comment est l'autre, la différence. C'est bien aussi les différences.
Bien sûr.
Et c'est ça qui nous enrichit. Voilà, moi j'ai. Vraiment, c'est que du mélange dans la famille, donc forcément, j'ai aucun souci avec ça. Oui.
Ce surnom, le lieutenant Nicholson, il vient vraiment de votre passion pour l'aviation?
Mais oui, parce que j'étais fan de Top Gun.
Ah oui, carrément, ce film horrible.
Mais oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
les
bon...
choses.
Mais
il y a le 2 qui sort, il paraît.
Oui, mais je vais courir. Je vais courir,
bonne
aller
chance.
Le voir. Je sais. Mais c'est vrai que j'avais envie d'être pilote. Et je m'en souviens, j'étais en voiture avec mon papa, on allait à la campagne.
Oui.
Et il me disait, tu trouves pas que c'est super ici? On était dans le Perche. Et je lui disais, c'est vrai que c'est super, mais j'adorerais voir la même chose, le même paysage, dans un mirage, en vol inversé. je ne pensais qu'à ça. J'étais fou de des
Et c'est
avions.
Lui qui vous a donné ce surnom, alors?
Et c'est lui qui m'a donné ce surnom avec son acolyte Alain, où il m'appelait tout le temps comme ça.
Alain, je vois pas qui c'est.
Alain Souchon.
Ah oui, peut-être, je sais pas. Voilà. Connu, un chanteur?
Il est... Il peut, à mon avis, ça peut être un. Il va être connu.
Se révéler.
Oui.
Bon, salut votre papa Laurent Voulzy, grand ami de la librairie francophone. C'est un grand voyage. Et quand on écoute Caipirinha, par exemple, on s'imagine être à un bar au bord d'un lagon à Schœlcher en Martinique ou à Saint-Gilles en Guadeloupe, par exemple. Mais avec un décalage dans le texte, écoutez. Vous aimez les jeux de mots, hein. Sakai, à Pirinha, quoi.
Oui.
c'est une musique ensoleillée, et en même temps, voilà, dans la réalité d'un lieu où on est censé être, où on n'est pas au bord d'un lagon, justement.
Totalement. Ouais. Kai, totalement, c'est la grisaille.
C'est quand vous êtes à Paris, ça, par exemple.
Voilà. Voilà, à Paris, où là, en l'occurrence, c'est drôle, parce qu'on était, lors de l'écriture de cette chanson, dans un. Le tournage d'un clip, il faisait très froid. Parce que on a un autre ami, Ours, avec qui on a coécrit cette chanson.
Le fils d'Alain Souchon.
Pour ne pas le...
C'est ça, non mais c'est tout le monde le sait.
Tout à fait.
En fait, on restait en famille, quoi.
Oui, entre amis.
Ouais. Donc, ça continue, ça se perpétue.
On avait froid dans une petite cabane et cette idée est venue en faisant rebondir...
Et lui, il ne vous a pas réchauffé, Ours?
Ah ben, on se réchauffe.
Avec Ours, oui.
Ah ben si, forcément. Il est très poilu. Ça réchauffe.
Bon, vous créez comme une île sonore, en tout cas un monde métis à vous, bercé par vos origines et inspiré par le monde avec la langue française comme support. Elle sonne bien cette langue, aussi bien que l'anglais quand on se donne la peine.
Exactement. Quand j'ai rencontré Jojoa, je travaillais avec Ours, et c'est vrai que déjà Ours m'avait déjà initié à ce truc de la langue française et moi je voulais chanter aussi, mais je n'osais pas, je voulais chanter en anglais pour faire comme les Américains. Et Jojoa me disait, mais écoute, la langue française, c'est super, ça sonne comme les Anglais. Et donc, du coup, je suis rentré dedans et maintenant, je peux plus faire autrement que chanter en français. J'adore. C'est... Merci, Jojoa.
You're welcome, brother.
Vous avez décidé tous de parler anglais à un moment dans cette émission. Vous avez fait un pari, en fait, avant, c'est ça, avec Gilles Kaplan. Gilles, vous les avez embrigadés.
Absolument
pas.
Si, c'est ça.
C'est
je suis
tout
tellement
seul.
D'accord avec ce que tu dis, que le français peut sonner comme de l'anglais. C'est qu'en français, on a une langue plus plane que l'anglais, mais si on prend la peine de mettre des accents toniques dans le français, ça rebondit très bien aussi, quoi.
Aimé Césaire est très présent dans votre deuxième album, Aimé Césaire. Zère, hein, détaché, il y a un jeu de mots aussi, magnifique. La poésie d'Aimé Césaire, c'est aussi un socle pour vos créations, tu vois.
L'idée vraiment, c'était de lui rendre hommage.
Ouais.
De lui rendre hommage et sa poésie, en fait, est un océan dans lequel on aime aller nager, là. Ouais. Parce que on n'est pas du tout des spécialistes. Mais pour nous, c'était important de l'évoquer, d'inviter. à aller se plonger dans son œuvre.
Bien sûr, ouais.
Et encore une fois, là, le jeu de mots était, enfin, aussi une invitation aux auditeurs, enfin, de venir se plonger dans notre univers.
Jojoa et lieutenant Nicholson, vous puisez dans les figures de la francophonie et de l'outre-mer. Les croisements de vos aînés quand Césaire rencontre Senghor à Paris, par exemple, ça vous inspire. Et leur courage, celui de Siparis, rescapé de l'éruption de la montagne Pelée en 1902 en Martinique, tous inspirent vos créations.
Voilà. Bah moi, c'est un peu aussi mon enfance. Quand j'allais aux Antilles, petit, j'étais en Martinique, chez ma grand-mère au Gros Morne. Et voilà, on parlait un peu de tout ça. On voyait Aimé Césaire à la télé. On me parlait des rescapés de cette éruption qui est très connue en Martinique. Et puis en plus, son histoire, moi,
c'est incroyable. Et ça se retrouve en musique. Bon, il y a un nouvel album en préparation qui est prévu pour septembre. Hein, c'est assez
fait.
Loin.
Tout
il y aura des surprises, vous restez dans cet univers ?
Oh, il y aura des surprises, d'accord. Mais c'est la continuité. D'ailleurs, ouais. L'album va s'appeler De Plus.
Très bien.
Parce que nous invitons à aimer Césaire De Plus.
Ah, à aimer Césaire là, De Plus.
Tout à fait.
Bon, merci beaucoup, Jojoa et lieutenant Nicholson. Merci. Écoutez-les. C'est absolument magnifique, ce croisement des cultures qui fait du bien en ce moment. Pas si vite, votre nouveau titre est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Merci pour ce titre en avant-première, hein.
Merci.
Dans notre studio. À bientôt.
Merci. La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Et vous pouvez retrouver la librairie francophone en podcast sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur le site de votre radio francophone. À écouter à votre convenance quand bon vous semble, surtout si vous avez manqué le début de l'émission avec Gilles Kaplan par exemple, ou une émission entière tout un week-end. La chronique des libraires, première partie avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de gueule au Canada, Mike Vienno.
Oui Emmanuel, est-ce qu'on peut parler du régime minceur des livres? Non mais sincèrement, quand on parle de certains titres, cela devient plus courant que juste un simple cas isolé. Les romans se plaquettisent. C'est peu, à peine 100 pages pour parler d'un roman. Et on parle pas du prix, on en a déjà parlé. Quand le novella se fait roman, on se demande si c'est la pénurie de papier qui impose cet amincissement ou que les auteurs manquent d'essence dans le réservoir.
Oui, alors vous râlez quand c'est trop long, vous râlez quand c'est trop court, on s'en sort pas. Hein, parce que à la rentrée, il y a eu des romans. Non, mais c'est vrai, des romans de 500, 600 pages quand même. Donc bon, mais oui. Mais c'est bien les romans courts parfois. Bref, allez, on y va en Suisse avec un coup de cœur. Claire Renaud, un gros livre ou un petit livre?
C'est un livre moyen,
oui.
Format moyen. Je m'en sors avec ma neutralité habituelle.
Oui.
Alors, New York, Ukraine, en guide d'une ville inattendue, avec des photos de Nils Ackermann et des textes de Sébastien Gobert. Ça a été publié aux éditions Noir sur Blanc. Si je vous dis Novorossiysk, vous me répondez quoi?
Rien.
Alors, il faudrait répondre New York.
Oui, d'accord.
Figurez-vous qu'au temps des tsars, oui. En Ukraine, dans le Donbass, dont le sujet très actuel, il y avait une ville qui s'appelait New York, nouvelle ville, et qui était un carrefour de la culture. Alors dans ce guide, vous n'allez pas trouver des hôtels chicos, vous allez trouver des restaurants où dormir chez l'habitant, et puis surtout, que voir.
Bien, New York, donc c'est en Ukraine, hein, pour le coup. Et c'est un guide aux éditions Noir sur Blanc. Merci beaucoup Claire. On part à Paris à présent avec un entretien-reportage du côté du parc Monceau, dans une librairie boutique étonnante. C'est David Fuenquinos qui vient de publier son nouveau roman et qui a choisi ce lieu magique et pas comme les autres.
Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
Tu es un sorcier, Harry.
Je suis un quoi ?
Voilà, nous sommes boulevard des Batignolles à Paris, à proximité du parc Monceau. Et devant nous, il y a une boutique très particulière, très spécialisée. Bonjour David Fuenquinos.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien.
Alors on a fait des lieux hein, ensemble, plusieurs hein, à travers la France, mais pas seulement, à l'étranger aussi. Et puis là, on est devant une boutique qui s'appelle la boutique aux deux balais.
Exactement, la boutique aux deux balais, au métro Villiers, dans le 17e à Paris. Voilà, une boutique totalement spécialisée dans tout l'univers d'Harry Potter. Je suis en plein cœur de mon nouveau roman. Je passe ici pour trouver un peu d'inspiration.
Allez, on va entrer dans cette boutique. Alors, c'est un lieu improbable, une curiosité, pourrait-on dire. Votre nouveau roman, effectivement, numéro 2, raconte la vie de celui qui aurait pu être Harry Potter au cinéma, à la place de Daniel Radcliffe. C'est un concours de circonstances qui pousse Martin à être le favori pour jouer le rôle titre de Harry Potter.
C'est exactement ça. Moi, il y a 2 ans, ils ont repassé les films d'Harry Potter et je connaissais pas très bien. Je connaissais un peu avec mon fils. Et je suis allé sur la page Wikipédia et pour glaner des informations, je suis tombé sur l'incroyable interview de la directrice de casting qui raconte qu'à l'époque, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs et qu'à la fin, il en restait plus que 2. Et pendant des semaines, ils ont hésité entre les 2 et finalement, ils ont choisi Daniel Radcliffe et j'ai décidé, moi, de raconter l'histoire de celui qui n'a pas été choisi.
Alors, on est dans l'univers d'Harry Potter ici. Il y a tout le merchandising, comme on dit en anglais, avec des sacs à dos, avec des peluches, évidemment, avec des tasses, beaucoup de tasses, de bols. Alors, moi, je connais pas trop les personnages.
Il y a aussi tous les livres de J.K. Rowling.
Ah oui, c'est vrai, il y a tous les livres.
Le mien ici, je me suis blessé entre 2 J.K. Rowling.
C'est vrai. Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie, donc un album illustré, Poudlard, enfin, tous les livres, tous les romans. Et puis, hop, David Fuenkinos, numéro 2.
Exactement.
C'est un peu l'intrus, quoi.
Oui, c'est un peu l'intrus, mais en même temps, c'est vrai. Alors, mon livre parle d'échec, parle de reconstruction, comment surmonter un échec. C'est pas un livre du tout sur Harry Potter, même si la première partie du livre raconte non seulement la genèse du film, mais aussi toute l'histoire incroyable de J.K. Rowling. Moi, je la connaissais pas du tout.
Oui, c'est incroyable.
C'est une histoire, faut imaginer cette femme vivant quasiment dans la misère, en précarité, dette sociale, femme battue, seule avec sa fille, désespérée, qui va être foudroyée dans un train entre Manchester et Londres par l'inspiration. Donc voilà, il paraît qu'il y a plein d'écrivains maintenant qui essayent de prendre le même train.
C'est ce que vous dites dans le livre.
Voilà, exactement, ouais. Je dis ça dans le livre.
Alors même le tournage du premier film est un cumul de concours de circonstances. Il y a le réalisateur qui va se lancer dans le projet grâce à sa secrétaire qui n'ose pas lui proposer le manuscrit, mais ça c'est bien avant le succès planétaire d'Harry Potter.
Oui,
et il y va, lui.
Oui, ça c'est le producteur. Ouais. Le producteur. C'est une histoire incroyable, effectivement. En plus, c'est tellement savoureux, c'est tellement romanesque. C'est un fils d'eux, puisque sa mère a produit Les Liaisons Dangereuses. Il n'est pas très crédible, personne croit vraiment en lui, et puis il va se retrouver à acquérir d'une manière incroyable, grâce à sa secrétaire, vous avez raison, les droits de Harry Potter avant tout le monde, avant que le livre devienne un phénomène. Donc c'est vrai que c'est assez miraculeux.
Et alors du coup, Martin, c'est le personnage, le fameux numéro 2. Lui, il est avec son papa, il ne lit pas de livres, il n'est pas passionné par le cinéma. Rien ne le prédestine à être finalement sur un tournage, sauf que son père, lui, travaille déjà dans le monde du cinéma. Et là aussi, concours de circonstances, on va le repérer.
Oui, c'est ça, c'est une succession de hasards. Mon livre tourne beaucoup autour de cette question du hasard. On dit très souvent que le hasard fait bien les choses, mais il peut tout autant mal les faire. Et on va se rendre compte que ce petit garçon, sans avoir rien prémédité, va se retrouver par une succession d'événements en finale du casting de Harry Potter. Et forcément, il va se prendre au jeu, il va y croire. Faut imaginer un enfant de 10 ans qui rêve de devenir une star de cinéma. Tout le monde autour de lui lit Harry Potter. Et c'est vrai que la déception va être d'une très très grande violence.
Ce casting raté va le poursuivre partout, tout le temps. Dans sa tête, il dira même « j'ai l'impression que ma vie est ratée ». Il en devient fou dans votre livre.
Oui, c'est tout un long cheminement, puisque c'est le sujet du livre, pour se réparer de cet échec. Il va tenter plein de choses. Alors c'est à la fois douloureux par moment et puis risible, parce que c'est impossible de vivre sans être confronté à Harry Potter, parce qu'il essaye de se protéger d'Harry Potter, ce qui est impossible. À un moment donné, il va travailler au Louvre, puisqu'il va se dire, au moins, avec les tableaux de la Renaissance, les sculptures antiques, je serai tranquille à l'abri de Harry Potter. Et il va se prendre de passion pour le tableau qui est juste à côté de celui de la Joconde, le numéro 2, celui que personne ne va voir. La prochaine fois que vous allez au Louvre, faites-moi un plaisir, allez voir ce tableau. Voilà.
Alors c'est vrai que vous parlez de ces numéro 2, David Fuenkinos, ceux qui ont manqué de devenir directeur, celui qui n'a pas eu les honneurs qu'un autre a eu, celui qui a frôlé le Goncourt, par exemple. Un peu comme vous.
Oui. Oui, mais alors moi, je dois vous avouer que c'était un magnifique et sublime échec, parce que effectivement, vous faites référence à Charlotte,
oui.
Mon roman qui était en finale du Goncourt et qui était même pressenti à un moment donné pour avoir le Goncourt. Mais j'ai eu le même jour, puisque je n'ai pas eu le Goncourt, le prix Renaudot, donc c'était magnifique. Et surtout, pour moi, c'était le cadeau suprême. C'est vrai que je suis resté en lice pour le Goncourt des lycéens, et avoir le Goncourt des lycéens pour Charlotte, c'était ma plus belle réussite.
Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité.
Bon, il y a beaucoup de monde hein, dans cette boutique, c'est incroyable. On est dans une boutique entièrement consacrée à Harry Potter. Imaginez toutes sortes de gadgets, toutes sortes d'accessoires, des jouets, mais pas seulement. Toutes sortes d'accessoires que vous pourriez utiliser dans votre cuisine ou même dans votre chambre, partout. On pourrait s'entourer de la vie d'Harry Potter.
Oui, oui, bah, c'est tout
c'est
ça.
C'est ce qu'il voit, votre personnage. Bah, c'est ça qu'il fait souffrir. Ouais, c'est que tous les jours, il est confronté à Harry Potter.
Ah bah, là, c'est impossible. C'est très simple. Faites l'essai. Il essaie justement de ne pas se souvenir de son échec, mais chaque jour, il y a toujours un événement, il y a toujours quelqu'un avec un t-shirt dans la rue, enfin partout, c'est partout, c'est partout. Et c'est vrai que moi j'ai adoré d'ailleurs depuis un mois rencontrer aussi tous les fans. Il y a un moment donné, par exemple, dans mon livre, le jeune garçon garde les papiers d'aluminium que fait son père quand il lui prépare son sandwich. Et quelqu'un m'a dit, ah oui, je comprends tout à fait, c'est une référence à Neville dans le tome 5. J'ai dit, évidemment, bien sûr, je ne voyais pas du tout de quoi il parlait. Mais
vous ne connaissiez pas non, en fait cet univers.
C'est pas du tout un livre de spécialiste. Hein. Ouais. Après, c'est extraordinaire de voir à quel point cette œuvre-là et la littérature, voilà, a dépassé les frontières simplement du livre. Ça devient un univers, les gens en parlent. C'est assez beau de voir tout ça.
Bon, Martin va rencontrer Daniel Radcliffe. C'est une belle rencontre. Il faudra lire ce roman pour en savoir plus. Merci beaucoup, David von Kinoz.
Merci. Alors, on se retrouve où la prochaine fois?
Dans un autre lieu improbable. On verra.
À Bora Bora.
À vous de décrire ça et on verra. On s'adaptera.
Merci.
Numéro 2 est paru aux éditions Gallimard. Et merci à la boutique aux Deux Ballets de nous avoir accueillis ici à Paris, boulevard des Batignolles. Qu'est-ce que vous allez choisir là dans tout ça?
Ben, je sais pas. Je suis avec ma fille. Donc là, je crois qu'elle a envie de tout acheter. Et encore, elle a pas vu le film.
Alors on quitte Harry Potter, retour en studio avec les coups de cœur et les coups de gueule des libraires. Deuxième partie, un coup de gueule en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui Emmanuel, oui moi c'est pour l'album en fait, album jeunesse intitulé Nature, devine, cherche et trouve chez Gallimard. Alors c'est un livre de grande taille aux innombrables illustrations pour enfants à partir de 5 ans. Où ça ne va pas, c'est que une chose pour moi est déplorable, c'est que les couleurs sont uniquement artistiques. J'entends par là, elles sont pas du tout réaliste ni pédagogique. Donc on voit du vieux rose, du doré, un crabe doré, une mouette rose. Alors moi je vais être sincère, la graphiste elle a tout pour faire des œuvres d'art, mais pour faire un album jeunesse, déclaré comme tel, pour moi c'est tout à fait à côté de la plaque.
D'accord.
Voilà, comment peut-on enseigner la nature à des petits comme ça, sans les couleurs vertes et bleues? Je suis un peu perplexe.
Très bien, donc on va citer le livre quand même, hein. Nature, devine, cherche et trouve aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci Nathalie, un coup de cœur en France, Mathieu Colombe.
Et oui, pour un petit livre très intéressant qui s'appelle Mathematica par David Bessis. Et en fait, alors c'est un essai totalement accessible, excessivement passionnant, et il arrive non pas à nous réconcilier avec les mathématiques, mais à changer notre regard sur elles. Parce que ça nous rappelle que par-delà la matière, les mathématiques, c'est surtout un langage, et ça peut être une expression artistique, et on peut même s'exprimer avec, et surtout, ça peut être instinctif.
Oui, c'est vrai.
Excessivement bon.
Excessivement bon, donc, selon vous, Mathieu Colombe. Mathematica aux éditions du Seuil. Merci, Mathieu. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec la réunionnaise Maya Kamati et un extrait de son tout nouveau titre. C'était un extrait de Alibi, le nouveau titre de Maya Kamati.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince, avec Anne-Laure Cochet et Nicolas Delmas. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter, avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin, la prog musicale. Un grand merci pour votre fidélité. Bon week-end, bonne semaine à tous. Le grand voyage continue la semaine prochaine. À bientôt, salut.